Bonjour à toutes et à tous. Allez, ce matin, je vous parle d'un investissement qui rapporte, d'un domaine dans lequel l'État ne peut pas tout, mais beaucoup. Passionnante étude de deux économistes de Dauphine pour le Conseil d'analyse économique sur l'enseignement supérieur. Point numéro 1, l'éducation, ça paie. Non, les diplômes ne sont pas dévalorisés. Oui, ils font toujours rempart contre le chômage. Et plus on étudie, plus longtemps on vit, en meilleure santé et avec deux plus gros revenus. Aujourd'hui, celui qui a une licence gagne 30% de plus que celui qui n'a que le bac. Un master, c'est 50% de plus. Point numéro 2, investir dans l'enseignement supérieur, c'est l'un des meilleurs choix possibles de dépenses publiques. Le retour sur investissement, c'est plus d'innovation, plus de productivité et bien sûr plus d'impôts. En termes de rendement, c'est mieux, lit-on, que de taxer les hauts revenus et mieux que de distribuer directement des aides sociales. Bon, le souci, c'est que depuis 10 ans, notre stratégie, c'est tout le contraire. La France dépense de moins en moins par étudiant. Et quelles inégalités entre les jeunes. Le sous-investissement à la fac pour les licences et les masters est par exemple un très mauvais calcul, on s'en doutait. Alors de quoi parle-t-on? D'au moins 5 milliards et demi à mettre de plus chaque année dans le supérieur. Oui, c'est beaucoup. Oui, ça ne rapporte pas tout de suite. Mais à long terme, les bénéfices sont élevés. C'est QFD.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour, l'économie comme on la vit, les choix que l'on peut faire ou pas, on en discute tous ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, notre invité, le PDG d'Aéroports de Paris, le trafic aérien était en pleine convalescence avant la 5e vague, avant le variant Omicron. Que se passe-t-il à présent? Augustin de Romanet sera dans ce studio vers 9h45. Ce samedi 4 décembre, nous parlerons aussi de la santé. Comme l'éducation, un thème important en campagne présidentielle, journée de mobilisation pour l'hôpital public. Et si une des solutions, c'était de mettre des médecins aux commandes des finances, des ressources humaines? Il y a un exemple, ça se passe à Valenciennes, vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Les questions de vie au boulot, c'est justement une aide-soignante qui vous a écrit. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra. Oui, c'est Corinne, une aide-soignante de nuit qui travaille à l'hôpital de Manosque. Son service passe à 12 heures, elle est fatiguée. Peut-elle éviter ce changement d'horaire?
Corinne, la réponse de Sandrine Foulon, ça sera juste avant 10 heures. Mais tout de suite, le débat, l'offre politique se précise. Cette semaine, candidature d'Éric Zemmour. Le choix du candidat chez les LR, Éric Ciotti, Valérie Pécresse. Les débatteurs sont là. Le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorne. Bonjour Laurent.
Bonjour Alexandra.
Également spécialiste de l'éducation, vous l'avez lu l'étude. Hein.
J'ai lu un papier du CAE qui est très bon, qui montre et qui démontre, si on est encore besoin, qu'il n'y a rien de plus important que l'enseignement supérieur pour préparer l'avenir. Et qui redit bien quelque chose qu'on sait, c'est qu'on a manqué depuis 2 quinquennats cette cible, y compris financièrement. On est aujourd'hui du mauvais côté
sous investissement.
Exactement.
Pas tant.
Et on attendait beaucoup plus de ce quinquennat d'ailleurs en la matière.
Alors, ça sera pas notre débat aujourd'hui parce que Christian Chavagneux, Alternatives économiques. Bonjour,
bonjour
Christian.
Bonjour à toutes et tous. N'oublions pas les masters qui ne trouvent pas de boulot aussi.
Alors, ça c'est encore un autre sujet. Vous voulez qu'on parle de politique quand même, hein,
oui,
des
oui,
programmes économiques.
Bah, attendez, vous donc, me donnez l'opportunité de taper sur la droite, je vais pas me priver.
Ok, alors la couleur est annoncée. Dans quelques heures, il n'en restera qu'un. Que voudront les Républicains pour l'économie française? C'est parti.
Les résultats maintenant sont les suivants. Philippe Juvin a recueilli 3,13%. Xavier Bertrand, 22,36%. Michel Barnier, 23,93%. Valérie Pécresse, 25%. Éric Ciotti, 25,59%.
Chers adhérents, mes chers amis, du fond du cœur, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage.
J'ai voulu placer cette campagne sous le signe de la vérité sur la situation d'un pays en voie de déclassement, de déclin.
Moi, je veux augmenter de 10% les salaires nets, en finir avec les 35 heures. Il faudra faire toutes les réformes que la droite voulait faire en 2017, la réforme des retraites jusqu'à 65 ans, la dégressivité des allocations au chômage pour toutes les personnes qui gagnent plus de 2000 euros et qui ont moins de 50 ans. La dignité, c'est par le travail et pas par l'assistanat.
Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, on favorise le travail, on récompense le mérite et on soutienne les entreprises. Moi, j'assume un programme de baisse massive des impôts. Le temps est venu de baisser les impôts.
Moi, je le dis, on ne peut pas faire des nouvelles dépenses si on ne propose pas des économies. Moi, je supprimerai 200 000 postes, mais au-delà de ça, je veux un comité de la hache pour simplifier les normes.
La hache, ça fait un peu décapitation, donc je voudrais mettre un peu de sérénité, mais simplement, je partage l'analyse de Valérie Pécresse. 5 600 000 agents publics en France. C'est 1 million quasiment de plus qu'en Allemagne. Le temps de la prudence est dépassé et c'est pour ça que oui, je veux un projet de rupture.
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron.
Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite.
Christian Chavagneux, vous avez l'air en forme. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, est-ce que vous avez lu les programmes, les propositions économiques? Est-ce que ce sont deux visions différentes?
Alors, je m'en tiens uniquement à l'aspect économique.
Absolument, c'est notre périmètre.
Pour moi, c'est la même vision générale. La France est en déclin, on parle même d'un grand déclassement, et elle doit se reprendre. Et pour se reprendre, il y a trois piliers, nous disent en gros les deux candidats. Il faut travailler plus. Chaque semaine, déjà, il faut se débarrasser des 35 heures. Il faut que tout le monde puisse travailler plus longtemps dans l'entreprise et tout au long de la vie. On repousse l'âge de la retraite à 65 ans. Deuxième pilier, l'État est l'ennemi de l'économie. Donc, il faut réduire l'État. Baisse massive des dépenses publiques, baisse massive des impôts. Et puis, le troisième pilier, c'est quand même... On a quand même gagné ça, je trouve, ces dernières années. Même la droite n'est plus climato-sceptique. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va falloir lutter contre l'environnement. Mais la seule, enfin, c'est pas la seule
lutter,
réponse. Mais
lutter contre le réchauffement
climatique, pardon. Mais la priorité pour ça, c'est un investissement massif dans le nucléaire qui nous sauvera du réchauffement climatique. Voilà, pour moi, c'est les trois piliers et les deux candidats partagent.
Trois piliers, et ça fait quelle vision? D'abord, est-ce que vous partagez cette analyse, Laurent Bigorgne? Et est-ce qu'il y a un qualificatif? À chaque fois, on dit qu'il y a une philosophie des candidats.
Alors, philosophie, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des nuances. Et des nuances qui sont plus importantes qu'il n'y paraît. Par exemple, Valérie Pécresse, quoi qu'elle en dise, elle pratique un certain en même temps. Puisqu'elle nous dit, je suis à la fois gaulliste au sens où je veux protéger la souveraineté économique du pays, je suis libéral parce que je veux débureaucratiser, je suis social parce que je veux que le travail paye. Donc elle a son en même temps à elle. Ciotti, effectivement, il est beaucoup plus radical dans ses intentions, puisque lui, il épouse les contours d'une toute une partie du programme de Fillon, c'est les mêmes 100 milliards de dépenses publiques en moins qu'en 2017, mais c'est seulement 250 000 emplois de fonctionnaires versus 500 000 dans le programme de Fillon. Et puis, il y a de la nouveauté fiscale. On a entendu dans le son, il nous dit qu'il est temps de baisser les impôts. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a baissé 2 points de PIB et prélèvements obligatoires sous ce quinquennat. Mais lui, il arrive avec une mesure au canon, qui est une mesure de flat tax.
On va entrer. Hein, on entrera,
d'impôt proportionnel, d'impôt sur le revenu. Voilà.
Et est-ce que vous, tous les deux sont quand même... L'idée, c'est libéral? On est d'accord?
C'est complètement libéral. Il y a quand même une grosse nuance entre les deux et que je tiens à souligner. Elle est importante. Il y a une vraie différence. Vous vous rappelez par rapport à la déclaration de François Fillon, je suis à la tête d'un État en situation de faillite, qui était fin 2011. Quand il dit ça, la dette représente à peu près 88% de la richesse produite en France. 88% du PIB. C'est 115% aujourd'hui. Oui. Que veulent faire les deux candidats? Éric Ciotti nous dit, il faut réduire la dette publique drastiquement. Je le cite, drastiquement. Valérie Pécresse, elle dit qu'elle veut revenir, donc on est à 115 à peu près, elle veut revenir à 100% du PIB. En 10 ans.
Il y a une grosse nuance là.
Je l'ai dit, il y a une grosse nuance. Là, c'est quand même très très modéré et elle veut sortir les dépenses de défense et de transition écologique du calcul des déficits publics. Donc là, sur le plan de la réduction de la dette, il y a une grosse nuance. Enfin, Valérie Pécresse, c'est beaucoup plus cool de ce point de vue-là.
Si on va dans cette veine-là, il y a une nuance qui d'ailleurs est en lien direct avec ça, c'est qu'ils n'ont pas le même positionnement par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une Valérie Pécresse qui nous dit qu'elle s'inscrit dans un schéma qui est complètement celui de l'Europe, même si, évidemment, elle veut revoir et contribuer à revoir le pacte de stabilité. Et puis, on a un Éric Ciotti qui nous dit qu'il faut redessiner la Constitution, donc il faut faire une réforme constitutionnelle, un peu à la Orban, parce qu'il n'est plus question d'accepter un certain nombre, des choses qu'on a acceptées nous-mêmes par nos engagements européens.
Alors, on va entrer dans le détail de leurs propositions. Hein. Ils ont chacun leurs propositions phares. Que disent-ils aux Français? Et je compte sur vous pour nous dire si c'est faisable, réaliste, au niveau des enjeux. Que nous disent-ils au sujet, par exemple, du pouvoir d'achat, Christian Chavagneux?
Alors, le pouvoir d'achat, d'abord pour Éric Ciotti, ça passe par des baisses d'impôts. Laurent a commencé à le mentionner, la fameuse flat tax, c'est-à-dire que tout le monde, le smicard qui touche 1 250 € par mois, le PDG du CAC 40 qui touche 4 600 en moyenne, tout le monde sera taxé à 15%. Donc, ce qu'on appelle, on supprime complètement la progressivité. Énorme cadeau aux riches, hein. Énorme cadeau, parce que c'est les revenus du capital aussi, qui sont à 30% aujourd'hui, qui passent à 15%. Or, c'est les plus riches qui ont les revenus du capital. Donc là, on est sûr qu'avec Éric Ciotti, certes, c'est une mesure de pouvoir d'achat. J'enlève des impôts, donc je rends du pouvoir d'achat. Mais je fais exploser les inégalités. Et ça, c'est vraiment la mesure phare d'Éric Ciotti. Il supprime aussi en partie les taxes sur l'héritage, la baisse de l'impôt sur le financement immobilier, ce qui reste de l'ISF, la baisse des cotisations sociales, en espérant que ça se traduise du côté des entreprises par une augmentation des salaires, etc. Et minimum de retraite qui passe au SMIC. Donc on passe de 900 en gros à 1 200 € aujourd'hui. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont dans le sens du pouvoir d'achat. Attention, on l'a entendu aussi dans le ZAP, suppression d'emplois dans la fonction publique, c'est des gens là, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Et l'impact récessif de la baisse énorme des dépenses publiques. Quand vous diminuez les dépenses de l'État de 100 milliards, vous créez un choc récessif dans l'économie. Donc il y a des gens qui vont perdre leur boulot, qui vont perdre leur revenu.
Alors, Laurent Bigorne, beaucoup de choses dans ce qu'a mis Christian sur la table.
Oui, on va en prendre certaines, y compris parce que vous nous demandiez ce qu'il en était de la faisabilité. Moi, par exemple, je crois absolument pas qu'une flat tax sur l'impôt sur le revenu soit acceptable ni possible en France. D'ailleurs, à droite, elle a été très peu proposée. J'ai trouvé trace de la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la primaire de 2016, qui proposait une flat tax à 20%. L'entrepreneur Denis Père avait proposé une flat tax avec deux taux, 2 et 15% s'il avait été candidat à cette primaire-ci. Et c'est vraiment pas, manifestement, dans l'écosystème ni la génétique de la droite française. Donc c'est le choc que propose Ciotti, avec d'ailleurs une forme de cohérence. Ça lui appartient, hein, puisqu'il dit qu'il veut diminuer de moitié les niches fiscales. Oui. Donc sa logique, c'est de faire baisser l'impôt pour une partie des Français, en même temps d'aller vers un système plus simple, ce qui est un mantra des deux candidats sur la débureaucratisation.
Plus de la TVA, plus de 2 points de TVA pour Ciotti. Et ça va aussi toucher tous les ménages.
Exactement. Alors, quant à Valérie Pécresse, elle souhaite une augmentation du salaire net de 10% pour tous les salaires jusqu'à 2,2 SMIC, qu'elle entend financer par une baisse des cotisations retraite, c'est-à-dire qu'on va au fond de plus en plus assumer que la retraite, c'est plus des cotisations, mais c'est de l'impôt. Il y en a pour 20 milliards, donc c'est un sacré choc. Elle sait en expliquer les deux tiers, et puis elle dit qu'il faudra bien que les salaires augmentent aussi pour arriver à cette augmentation de 10%. Elle reprend, elle épouse d'une certaine façon, pour le coup, un des thèmes principaux de la droite française, au sens où elle voudrait que 10% du capital des entreprises cotées d'ici la fin de son quinquennat appartiennent à leurs salariés. Donc elle est véritablement dans l'intéressement et la participation. Et puis effectivement, on l'a dit, hein, les deux candidats ont des mesures sur les 35 heures, mais qui sont, pour Ciotti, j'allais dire des mesures... top-down, hein, on y va.
Alors attendez, des mesures et des mesures sur 35 heures, c'est-à-dire qu'ils veulent... Alors, Éric Ciotti, lui, il dit, je veux aller à 39 heures.
Il dit, je vais aller 39 heures, payer 38 dans la fonction publique. Donc là, j'ai envie de dire, bon courage. Il y a évidemment un tout petit peu de travail de conviction à faire. Quant à Valérie Pécresse, elle dit, il faudra qu'en réalité, on puisse libéraliser le temps de travail et le négocier branche par branche ou par entreprise. La réalité, c'est que sur les 35 heures, avec les ordonnances de 2017 et ce qui a été fait précédemment...
On peut négocier énormément.
Non, juste un petit mot sur le pouvoir d'achat, parce qu'on a l'impression que Valérie Pécresse, c'est quand même la candidate du pouvoir d'achat, plus 10% d'augmentation jusqu'à 2,2 SMIC. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Attention, hors inflation, c'est-à-dire que si il y a une inflation de 5%, vous rajoutez 5%, ça va aller plus que 10%. C'est hors, c'est les salaires, comme disent les économistes, les salaires réels, hors inflation. Aujourd'hui, donc jusqu'à 2,2 SMIC. Concrètement, ça veut dire quoi? Et c'est sur 10 ans, attention. Hein. Concrètement, la Banque de France nous dit qu'en 2022, ce fameux salaire réel, donc les augmentations de salaire hors inflation, enfin, en tenant compte de l'inflation, ça va faire 3,3% et en 2023, 1,5%. C'est-à-dire que, avec l'évolution naturelle, entre guillemets, de l'économie, la moitié de la proposition de Pécresse est déjà faite en 2 ans. Si vous pensez qu'il y a 1 ou 1,5% d'inflation, eh bien, en fait, en 10 ans, on aura 10% déjà et plus d'augmentation. Donc, en fait, ce que nous propose Valérie Pécresse, c'est simplement de regarder l'économie suivre son cours.
Okay.
Oui, ce qu'elle propose par ailleurs, c'est quand même un engagement pour le coup des charges salariales.
Ah oui. Des cotisations.
Des cotisations, des charges salariales, c'est là qui est le cœur de sa proposition.
Alors maintenant, quelle proposition sur l'emploi? C'est quand on est quand même...
Ça c'est facile, hein. Éric Ciotti, 250 000 fonctionnaires en moins. Valérie Pécresse, 200 000 en moins, mais comme elle en réembauche 50 000 en net, ça fait 150 000.
Voilà, vous êtes sur le rôle de l'État plutôt.
Vous me parlez d'emploi, moi je vous donne des emplois en moins.
On parle d'emploi privé.
Plus augmentation du temps de travail, donc ça veut dire que les gens qui ont la chance d'avoir un travail vont travailler plus longtemps, donc laisser moins de place à ceux qui en cherchent. Plus le report de l'âge de la retraite, pareil. Pour les plus de 60 ans qui ont la chance d'avoir un travail, il va falloir qu'ils restent plus longtemps, donc ils vont libérer moins de place pour les autres.
Laurent Bigorgne, est-ce qu'il y a une philosophie sur comment lutter contre le chômage ?
Il y a une philosophie commune sur comment lutter contre le chômage. Ils disent tous les deux vouloir à nouveau réformer l'assurance chômage. Moi, je serais prudent et voyons déjà comment la réforme qui vient d'être faite fonctionne. Et puis, c'est vrai qu'ils sont tous les deux aussi très agants sur la création de richesses à travers des mesures d'allègement des charges qui pèsent sur les entreprises. Avec... Là aussi, un point pour Valérie Pécresse, c'est qu'elle dit on supprimera la C3S, hein, qui représente à peu près 4 milliards sur les 72 milliards d'impôts de production, mais je n'entrerai dans des nouveaux allègements d'impôts que si je sais les financer.
Impôts de production.
Impôts, charges pesant sur l'entreprise. Oui. Ciotti nous dit, moi je ferai beaucoup moins sur les impôts de production, je ferai moins 25 milliards, je baisserai le taux d'impôt sur les sociétés, je ne sais plus si c'est 22 ou 20%, mais 20%, il entend faire une diminution supplémentaire. Oui. Là où bas blesse, moi limite, je peux être content d'entendre qu'on veut alléger les charges sur les entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on sache les financer.
Est-ce qu'il y a des angles morts?
Pour moi, l'angle mort principal, c'est l'Europe. Pour moi, c'est l'Europe. Il y a un message de défiance généralisée vis-à-vis de l'Europe, mais c'est pas du tout clair. Alors, à part ce que j'ai dit tout à l'heure pour Valérie Pécresse, qui veut que dans la renégociation du pacte de stabilité, on puisse dire les pays doivent pouvoir sortir les investissements qui vont dans la défense et dans la transition écologique du calcul du déficit public. Mais sinon, le message général, c'est défiance généralisée vis-à-vis de l'Europe. Et à part cette proposition sur le budget, quelle serait la politique de eux ou elle, présidente? Là, vraiment, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils pensent des États-Unis? Est-ce que la Chine est un concurrent ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire face à la Chine? Aucune idée.
Bon, c'est le début de la campagne. Peut-être qu'on peut se dire ça aussi.
Oui, c'est les primaires. Moi, où je suis resté sur ma fin en lisant ces programmes, c'est qu'on a quand même l'impression que le monde ne s'est pas tellement digitalisé, numérisé, donc il a au fond peu changé. On nous parle peu de recherche, peu d'innovation, et c'est là où on a quand même envie d'entendre autre chose que les habituelles recettes.
C'est quand même fou, hein. Numérisation de l'économie et mondialisation, dont tout le monde parle tout le temps, c'est là qu'il n'y a pas de proposition.
Alors, ce qu'on entend, aussi, c'est aujourd'hui, finalement, quelle serait la valeur ajoutée? On entend que on a un chef de l'État qui est pro-entreprise, ceux qui critiquent Emmanuel Macron disent que sa politique économique, elle est déjà de droite. Est-ce qu'avec Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, les Français verraient une différence, Laurent Bigorgne?
Est-ce qu'il y aurait une différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron? Honnêtement, je ne sais pas. Là où elle dit, elle, vouloir faire une différence, c'est qu'elle veut significativement faire baisser la dépense publique, hein, on a dit, de près de 2 points de PIB. Elle veut, à la différence du président de la République, qui va se retrouver avec un solde net d'emplois de fonctionnaires créés à la fin du quinquennat, elle veut s'inscrire dans une logique de diminution de la dépense publique, y compris à travers cette diminution du nombre de fonctionnaires. Deuxième vraie différence, me semble-t-il, il y a chez les deux candidats, et de façon sans doute beaucoup plus crédible chez Valérie Pécresse, la volonté de décentraliser et de confier aux régions un certain nombre d'opérateurs. Elle parle de Pôle emploi, elle parle des missions locales, elle a aussi une réflexion sur les agences régionales de santé. Il y a une volonté de dire, attention, on le sait bien, l'État a du mal à tout faire et à tout faire bien, et il faut maintenant décentraliser.
Alors, à part la décentralisation, je reconnais le point à Laurent, mais quand même, c'est du Macron pur jus. On s'aperçoit combien le chef de l'État actuel a déjà mis sur les rails en France le programme économique de la droite. Promotion de la valeur travail, c'est Macron. Recul de l'âge de la retraite, Macron. Moins d'impôts sur les riches, Macron. Recul de la dépense publique, Macron. Recul de la protection sociale, Macron. Donc je pense qu'il n'y aurait pas grande différence. Et en fait, Valérie Pécresse est déjà au pouvoir.
Je crois que là, on a vos grilles de lecture. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus à droite sur l'échiquier? Parce que cette semaine, on a quand même eu la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Il veut sauver la France, il la voit en déclin. Est-ce qu'il a des idées neuves, Laurent Bigorgne, Éric Zemmour, pour la France?
Des idées neuves, je n'irai pas jusque-là. Des idées tout court, même j'ai quelques hésitations parce que rien n'est vraiment documenté.
En termes économiques, on dit souvent que c'est
on voit bien qu'il veut tailler dans les aides sociales en fonction d'un seul critère qui est celui de l'appartenance ou pas à la communauté nationale ou à l'Union européenne. Il veut baisser les impôts de production, lui aussi, mais sans nous dire comment les financer. Il veut supprimer beaucoup de normes. Il est dans un discours très très Robin des Bois, même s'il n'est pas exactement au même niveau de discours que Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a des nuances intéressantes entre les deux candidats. À la différence de Marine Le Pen, il ne veut pas supprimer l'ISF. À la différence de Marine Le Pen, par exemple, il veut une réforme de l'âge minimum légal de la retraite à 64 ans, là où Marine Le Pen veut revenir à 60 ans. Donc on voit bien qu'il y a un des deux candidats de l'extrême droite, en l'occurrence Zemmour, qui ne cesse de qualifier, j'avais retrouvé cette citation, qui ne cesse de qualifier l'autre de femme de gauche qui parle comme Montebourg. Mmh. Donc il y a un des deux candidats qui est beaucoup plus à droite que l'autre, sans doute.
Et ce qui est quand même frappant, c'est la continuité entre la politique actuelle de Macron, ce que propose Valérie Pécresse et Éric Ciotti dans un contexte encore un peu plus fort, et puis Éric Zemmour, parce que si je m'en tiens en proposition pure économique d'Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il veut ? Baisser les impôts sur les salaires jusqu'à 2000 euros pour augmenter le salaire net, exactement ce que veut Valérie Pécresse. Investir massivement dans le nucléaire, c'est exactement ce que veulent les deux candidats à la droite. Repousser l'âge de la retraite, c'est exactement ce que veulent les candidats à la droite et Macron. Baisser les impôts sur l'héritage, sur l'impôt sur la fortune, c'est ce que veut Valérie Pécresse. Sur les entreprises, baisser l'IS et les impôts de production, c'est ce que veut Valérie Pécresse et Ciotti. Il veut un commissariat.
Vous êtes en train de nous dire qu'il y a aucune différence dans
une vraie continuité, en tout cas sur le plan économique. Un commissariat à la simplification administrative, alors que Valérie Pécresse veut un comité de l'âge pour faire exactement la même chose.
Et François Hollande avait fait la simplification, donc on pourrait dire qu'il y a, un vraie continuum du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite, ce qui serait évidemment un peu outrancier.
Enfin, du centre-droit avec François Hollande.
Moi, je pense que ça vous appartient.
Tout à fait.
Ce que je pense très important, c'est que on voit bien une chose, c'est que Éric Zemmour n'a pas de doctrine économique. Armand, sa doctrine, s'il en a une pour la France, c'est cette idée qu'on va revenir sur cette décadence dont on serait tous les victimes. Il faut pas oublier que l'économie, c'est pas que des mesures, c'est quelle confiance je donne. Quelle confiance je donne aux Français, aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux partenaires de la France, aux pays de la zone euro.
Et on voit bien que de ce point... aux riches et à la France,
je reviens à ce qui est important pour la croissance, la prospérité, mais aussi la cohésion sociale. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune réponse du côté d'Éric Zemmour. Et c'est ça qui est important, à mon avis.
Je vois Christian Chavagneux qui hoche cependant de la tête.
Il
n'y
a pas de logique
tête.
Globale chez Éric Zemmour.
Les programmes économiques des candidats, les propositions jusqu'au scrutin, on va continuer à décrypter, à comparer tout ça grâce au regard croisé des débatteurs Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne, à qui je donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. 9h34 sur France Inter. Ce samedi, le collectif Interhôpitaux tire encore un signal d'alarme. L'hôpital public menace toujours de craquer, et cela malgré les milliards du Ségur de la Santé. D'autres réponses sont attendues. On connaît les pistes qui sont sur la table. Revoir les cursus de formation, en finir avec les économies, corriger la fameuse T2A, la tarification à l'acte, et réorganiser l'articulation hôpital-médecine de ville. Et puis, disent certains, il faudrait rendre le pouvoir aux soignants face à l'administration. Ce matin, dans On n'arrête pas l'écho, voici le zoom que nous avons choisi de faire. Les médecins qui ont repris les manettes, eh bien, il y a un exemple, au centre hospitalier de Valenciennes, où s'est rendu notre reporter, Anaëlle Verzo.
Ah voilà, là. Salle de réanimation, SIPO, accès malade, couché. Soins intensifs, post-opératoires, plateau technique d'anesthésie centralisée.
Bonjour.
Bonjour.
Anaëlle.
Salut.
Enchantée, merci beaucoup.
Donc là, il y a les deux infirmiers et la médecin qui sont autour de la dame qui doit être anesthésiée.
Qui est-ce qui l'a demandé cet examen?
Qu'est-ce qu'il a demandé?
Oui.
C'est le service pour éviter de vous piquer tous les jours.
Oui.
Ça, vous allez le garder plusieurs jours. Ça va être plus confortable pour vous.
En principe, je dois partir.
À la maison?
Oui.
Ouais. Et comme ça, vous rentrez à la maison avec ça. D'accord?
Oui.
Je fais l'anesthésie locale, hein, madame?
D'accord.
C'est pour ça que ça chatouille un peu. Voilà. Alors, je suis le docteur Fanny Defranc. Je suis anesthésiste au sein du centre hospitalier de Valenciennes depuis maintenant 7 ans. Là, on est le pôle URAMU.
Réanimation.
Unité de réanimation, anesthésie et médecine d'urgence. Et donc, c'est un pôle qui regroupe tout ce qui tourne autour du soin critique. Et le pôle est géré par ce qu'on appelle un trinôme de pôle.
Donc il y a un chef de pôle, un cadre supérieur de santé et un cadre administratif. Et donc ça, c'est le trinôme de pôle. Et après, chaque service a un chef de service. Donc il y a un chef de service de réanimation, un chef de service de médecine d'urgence et un chef de service d'anesthésie.
Et vous, vous êtes chef de service ?
Adjointe. Alors, il y a une hiérarchie fonctionnelle, je dirais, mais la communication est assez simple. On a rendu les services très adaptables et les projets qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qui demandent des circuits beaucoup moins longs que dans un hôpital traditionnel.
Est-ce que ça vous rajoute du travail ?
Je fais toujours beaucoup d'anesthésie, mais il y a des tâches qui me sont ajoutées. La gestion managériale, la gestion de projet. Et tout ça, c'est des choses que je n'avais absolument pas conscience quand j'ai commencé médecine, qui ont été développées ici en arrivant sur le CHV.
Nous sommes dans les Hauts-de-France, au centre hospitalier de Valenciennes. Depuis 10 ans, le CHV a mis en place une gouvernance unique en France pour gérer les budgets, pour manager les équipes. Les commandes ont été données aux médecins. Aujourd'hui, quel est le bilan ? Y aurait-il un modèle valenciennois qui pourrait soulager d'autres organisations dans d'autres hôpitaux ? De la réa au bureau du directeur, ce matin, immersion au cœur d'un hôpital public particulier avec Anaëlle Verzo.
Bonjour.
Je vais mettre mes masques. Alors, Rodolphe Bourret, je suis le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes. Alors, c'est une organisation qui est en place depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai délégué 90% de mes prérogatives, c'est-à-dire que les chefs de pôle ont la capacité d'engager des dépenses qui sont soit des dépenses de personnel, donc ils peuvent recruter du personnel médical, du personnel non médical, ils peuvent aussi engager des dépenses hôtelières, donc acheter des lits, des matelas, des meubles, ils peuvent même acheter des robots, et puis ils ont la capacité aussi d'engager des dépenses d'investissement pour faire des travaux si ça le nécessite.
Alors les médecins, chefs de pôle, peuvent dépenser jusqu'à 75 000 euros de façon autonome, sans vous poser la question, sans vous demander votre avis.
Absolument. Et en fait, là, ça va très vite parce que le donneur d'ordre, c'est le médecin, et les services administratifs sont là en support et en accompagnement du projet médical.
Et alors, est-ce que ça fonctionne en termes budgétaires ?
C'est l'ensemble du centre hospitalier qui retrouve son compte. Et nous, on est un établissement qui est excédentaire maintenant depuis 8 années. Notre hôpital, entre 2009 et 2019, 2009 c'est à peu près l'année où on a mis en place les pôles, il a fait plus de 100% d'activité. On a des créations d'une centaine de postes par an de manière usuelle.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Parmi les 5 syndicats représentés à l'hôpital de Valenciennes, 2 s'opposent à cette organisation par pôle, l'UNSA et Sud. Patrick Martin est le secrétaire de la section syndicale Sud Santé Sociaux.
Là, on arrive à peu près à 45% de contractuels dans l'hôpital de Valenciennes, qui devraient être à moins de 10% les contractuels dans l'hôpital de Valenciennes. L'hôpital de Valenciennes, là, on a un taux d'absentéisme qui flirte les 10%. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi autant d'absentéisme actuellement au centre hospitalier de Valenciennes si on est excédentaire et si la qualité de vie est si belle, selon les dires de notre directeur général et de certains chefs de pôle? Avant, c'était la direction des ressources humaines qui gérait le personnel. Maintenant, le pôle gère lui-même. Il finance son nombre de postes. Lorsqu'il a un poste absent, il ne le remplace pas, puisqu'il n'a pas les moyens pour le remplacer. Donc le travail qui était fait à 10, à 12, régulièrement est fait en équipe réduite. On est vraiment dans un fonctionnement très réduit par moment, où on est obligé même des fois de fermer des lits faute de personnel. Les pôles doivent même gérer eux-mêmes les postes aménagés. Ils viennent de décider qu'ils vont supprimer l'accord à RTT de tous les postes aménagés, leur supprimer 15 RTT. Puisqu'il faut qu'ils fassent de l'argent, et là, encore un moyen de faire de l'argent, c'est de supprimer des RTT à des agents. Et ça touche surtout les petites catégories, les catégories C, les aides-soignants qui se sont blessés au travail et qui se retrouvent à avoir des postes aménagés puisque le statut le permet, mais là, ils viennent de décider qu'ils leur supprimer les 37h30, ils la passent à 35h. La gestion populaire, elle peut être bénéfique si, lorsqu'un service décide que pour bien travailler, il a besoin d'acheter un échographe, mais que pour acheter ses stéthographes, il n'a pas besoin de passer par le RH1, RH2, RH3. Lui, bien sûr, ça, c'est de la gestion populaire. Mais la gestion RH doit être une gestion institutionnelle.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Alors, l'hôpital de Valenciennes peut-il constituer un modèle pour les autres hôpitaux ? Brigitte Dormont est économiste à l'Université Paris-Dauphine.
Donc, comment analyser l'exemple de Valenciennes ? Clairement, moi, je crois que c'est vrai qu'une bonne gestion peut améliorer les choses. En même temps, il y a quelque chose de véritablement choquant à revendiquer des bénéfices dans un service public. Donc là, on retrouve les défauts de la T2A, hein, où il y a des incitations trop puissantes à multiplier les actes. Parce que ce qui s'est passé, c'est pour gérer ces budgets toujours plus étroits, avec toujours plus d'actes, effectivement, il y a une gestion de la part des directeurs d'hôpitaux assez folle, hein, avec justement une utilisation des personnels, des infirmières, des aides-soignants, avec la recherche de gains de productivité qui font que ces personnels ont perdu le lien avec les patients et ont perdu tout ce qui faisait le sens de leur travail. Donc là où c'est pas un modèle non plus, hein, c'est que c'est très facile d'être bénéficiaire si on se positionne sur certains actes et une certaine patientèle. En revanche, le centre hospitalier universitaire, le CHU, que n'est pas Valenciennes, hein, qui est un plus petit hôpital, donc le CHU, lui, il n'a pas le choix de se positionner sur tel ou tel traitement. Il doit offrir tous les soins 24 heures sur 24 et accueillir tout le monde sans distinction. Donc là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, cet hôpital n'est pas un CHU. Donc il ne peut pas être un exemple. Donc il y a vraiment une réforme d'ensemble du système de santé qu'il faut penser. Une remise à plat de long terme qui dise voilà comment on va organiser le travail à l'hôpital et voilà les budgets, la reprogrammation qui va être faite en matière de budget.
Quand les médecins deviennent DRH, c'était le reportage d'Anaël Verzo à l'hôpital de Valenciennes.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
L'invité du Mag Écho ce samedi 4 décembre vient de s'asseoir dans le studio 521. C'est le PDG du groupe ADP. Bonjour Augustin de Romanet.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
ADP, les aéroports de Paris, hein, Orly, Roissy, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde, n'est-ce pas ?
Exactement. Nous gérons 27 aéroports et nous sommes présents dans 150 aéroports avec nos services d'assistance en escale, de duty-free, etc.
Alors pour la France, depuis une semaine, le variant Omicron avait stoppé les vols vers l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Ce samedi, ces vols reprennent, Augustin de Romanet, mais dans quelles conditions ?
Alors, à l'heure où nous parlons, pour 10 pays d'Afrique australe, c'est-à-dire grosso modo l'Afrique du Sud, Botswana, île Maurice, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, l'ex-Swaziland, etc.
Toute la corne sud.
Voilà. Il n'est pas possible de venir en France sans un motif vraiment impérieux, d'une part. Il faut par ailleurs faire un test au départ et il faut également faire un test à l'arrivée. C'est-à-dire que pour environ 3% des vols, tous les passagers sont de nouveau testés PCR à l'arrivée et des dispositifs sont mis en place pour éviter la fraude à la provenance. Mmh. C'est-à-dire que dans les mois passés, nous avions vu des personnes qui prenaient un billet pour Francfort ou pour Amsterdam et qui arrivaient à Paris en se prétendant provenant de l'Union européenne. Et des dispositifs sont mis en place pour que ces personnes soient tracées et contrôlées dans les mêmes conditions à Paris.
Est-ce qu'il y a une quarantaine ?
Et il y a une quarantaine en plus, obligatoire, de 7 jours si vous n'êtes pas contaminé, et de 10 jours si vous êtes testé positif.
Augustin de Romanet, là on voit quand même qu'il y a eu des frontières qui se referment, il y a l'Organisation Mondiale de la Santé qui déconseille aux plus de 60 ans de voyager. Le secteur aérien, il était en convalescence depuis cet été. Est-ce qu'avec la cinquième vague, est-ce qu'avec ce variant, vous vous dites, attention, on est proche de la rechute ?
La rechute comme celle que nous avons connue en mars 2020, je ne le pense pas. Néanmoins, qu'effectivement le trafic s'affaiblisse de nouveau sensiblement, c'est possible. Ce n'est pas ce que j'observe aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, les trois zones de préoccupation sont l'Afrique australe d'une part, Israël d'autre part, qui a fermé ses vols aux personnes qui ne sont pas de nationalité israélienne, le Maroc qui a fermé ses vols pour 15 jours. Je le dis parce que ceux qui veulent y aller à Noël, il y a peut-être encore un espoir. Mais pour le moment, ça n'est pas l'effondrement. Tout dépendra de ce que le variant Omicron produira comme effet concret, et ça, il est trop tôt pour le dire.
Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau d'activité par rapport à l'avant-crise ?
Aujourd'hui, nous sommes exactement aux deux tiers. À Orly, un peu plus qu'à Charles de Gaulle. À Orly, nous étions à 67% hier, à Charles de Gaulle à 60%. Et donc, nos prévisions consistant à estimer que le trafic rejoindra l'asymptote des 100% entre 2024 et 2025 demeure valable. Nous prévoyons 90% de retour à la normale en 2024. Et ensuite, les 100%, on ne sait pas trop, entre 25 et 27.
Je vois que vos prévisions n'ont pas changé. Vous êtes en attente, hein, en attente de ce qui arrivera avec cette Omicron, si je comprends bien.
Oui, et je pense que le variant Omicron ne changera pas fondamentalement ses prévisions, parce que un jour ou l'autre, l'ensemble des pays du monde seront vaccinés. Ce qui est quand même ça le point déterminant, parce qu'on a beau se féliciter que nous soyons vaccinés à 80%, le sujet c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Donc l'année 2022 doit être l'année de la vaccination de l'ensemble des pays du monde, ce qui me donne à penser que notre prévision de retour à la normale entre 24 et 27 demeure plausible.
Mais là, c'est une profession de foi que vous faites. C'est-à-dire 2020, vous êtes optimiste quand vous dites 2022, le monde entier pourra être vacciné.
Alors écoutez, quand on a fait nos prévisions il y a 2 ans pour dire que le trafic reviendrait à la normale entre 24 et 27, on nous accuse d'être abusivement pessimiste, donc je ne vais pas aujourd'hui changer mes prévisions parce qu'on m'accuse d'être optimiste.
Et la troisième dose, ça va être obligatoire bientôt sur un pass sanitaire pour voyager ?
Ben écoutez, ça va déjà l'être pour avoir son pass sanitaire pour aller dans un bistrot. Et donc, il y a la clause de la nation la plus favorisée pour l'avion. Il aura le même traitement que le bistrot.
Bon. En attendant, Augustin de Romanet, il faut assurer l'équilibre économique des aéroports. Vous avez emprunté, vous avez taillé dans les investissements, vous avez taillé dans les effectifs. Il y a eu un plan de départ assez lourd, hein. Sur 6200 salariés, 1150 vont vers la sortie. Il y a aussi des baisses de salaire. Jusqu'où pouvez-vous aller si le Covid continue ?
Écoutez, je crois que nous avons fait vraiment des efforts considérables. Et quand je dis nous, c'est les collaborateurs du groupe. Vous voyez, au moment où je vous parle, nous sommes en train de changer des tableaux de service. Nous optimisons la production. Vous savez, quand quelqu'un avait une vacation de 10 heures, et que soudain, c'est 9h45 pour optimiser les tableaux de service, qu'il a un peu moins d'heures majorées, ben, il perd un petit peu de rémunération. Même si dans le cadre des mesures de réduction de primes, nous nous sommes engagés à compenser toutes les baisses au-delà de 5%, y compris les baisses qui seraient liées à des pertes d'heures majorées, dans la vie quotidienne, les collaborateurs d'ADP ont accepté des sacrifices financiers pour éviter tout licenciement. Donc, je n'irai pas plus loin, et je leur dis solennellement, je leur dis merci pour les efforts que vous avez faits, je n'irai pas plus loin dans les efforts que je vous demande, au jour d'aujourd'hui. Et même si la situation devait se dégrader, il faut quand même...
Vous êtes à l'os, c'est ça ?
Il faut garder le sens de la mesure. Nos collaborateurs d'ADP ont été extraordinaires pendant cette crise. Ils ont accepté des mesures que aucune autre entreprise n'a été capable de consentir. Entreprise, je veux dire, possédée par l'État à 51% et dans la même circonstance. Il y a d'autres entreprises qui ont été en situation plus difficile. Il y a notamment beaucoup d'assistants en escale qui ont connu des baisses de salaire beaucoup plus importantes que nous. Il demeure que, je le dis à nos collaborateurs, merci pour les efforts que vous avez faits, je n'irai pas plus loin.
Vous avez, je l'ai dit, conduit certains, vous conduisez 1100 personnes, 1150 vers la sortie, et cependant, vous avez 450 recrutements de prévus. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité ?
Bien sûr. Nous avons fait un plan de départ volontaire de 1150 personnes, en nous engageant à remplacer toutes les personnes au-delà de 700. Ce qui veut dire que dans les 24 mois ou 36 mois qui viennent, nous allons recruter 450 personnes, sans compter les recrutements naturels. Donc je pense que nous allons recruter environ 500 à 600 personnes.
Vous avez des candidatures en ce moment ?
Oui, nous avons des candidatures, même s'il est vrai que le marché de l'emploi, notamment des cadres, est extrêmement tendu et que l'accès aux aéroports n'est pas un avantage pour nous. Vous le savez, l'accès aux aéroports est difficile, que ce soit par les transports en commun ou par la route.
Le modèle économique des aéroports, c'est de vivre évidemment des redevances payées par les compagnies aériennes, mais aussi des parkings, des loyers, des boutiques. Et ce modèle, il est basé sur une croissance continue du trafic aérien. Est-ce que ce modèle-là, il est périmé aujourd'hui ?
Le modèle de l'entreprise ADP, qui était d'investir 1 milliard d'euros par an pour construire l'équivalent d'une capacité de 10 millions de passagers accueillis en plus tous les 3 ans, un peu plus que l'aéroport de Marseille, est pour le moment mis entre parenthèses. Nous n'allons pas construire autant de capacités puisque le transport aérien aura connu une espèce de parenthèse et de retard, entre guillemets, de 6 à 7 ans. Mais sur le long terme, je pense que l'appétit des classes moyennes pour voyager va demeurer. Alors vous savez qu'aujourd'hui, un Indien moyen voyage 30 fois moins qu'un Américain. Dès que vous accédez au statut de classe moyenne, vous voulez voyager. Donc je pense que sur le long terme, le transport aérien va redémarrer. C'est la raison pour laquelle l'enjeu de la décarbonation, qui est pris totalement à bras-le-corps depuis 2019, est si capital.
Alors justement, à propos de la décarbonation, Augustin de Romanet, cette semaine, le patron de la SNCF a défendu le train, mais il a aussi posé une question sur l'avion qui ne paie pas pour son empreinte carbone. Moi, je ne comprends pas, dit Jean-Pierre Farandou, pourquoi les compagnies aériennes sont exemptées de toute taxe sur le kérosène. Au fond, est-ce qu'il a tort, Jean-Pierre Farandou ?
Écoutez, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je ne voudrais pas polémiquer et je considère que l'incident est clos.
Mais il y a une question de fond, quand même.
Je pense qu'il a compris qu'il était sorti de son couloir de nage. Comme je l'ai dit, bon, moi, je ne vais pas me plaindre de ce qu'en 2018, chaque contribuable qui paye l'impôt sur le revenu a consacré 900 euros à la SNCF pour une somme globale de 15 milliards pour financer les investissements, le fonctionnement, les retraites de cheminots.
Ça s'appelle.
C'est comme ça, c'est très bien, et je veux dire, c'est un fait. Mais si on faisait payer le vrai prix du train, il serait encore beaucoup, beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui se passe avec l'avion ? L'avion paye 100% de ses infrastructures. Le groupe ADP qui finance les infrastructures de l'avion ne reçoit aucune subvention. Quand on me dit l'emprise au sol des aéroports, est-ce que vous croyez qu'on peut comparer l'artificialisation des sols d'une piste de 2000 mètres avec l'artificialisation des sols d'une ligne de chemin de fer de 1000 km ? Ça n'a aucun rapport. Donc il est vrai que l'avion en l'air ne consomme pas d'infrastructure, c'est vrai.
Mais
donc,
ne paie pas non plus son empreinte carbone.
L'avion paye l'empreinte carbone. Dans la mesure où vous avez vu que dans le programme Fit for 55, c'est-à-dire réduction de 55% des émissions de CO2 en Europe d'ici 2030,
Fit for 55, c'est l'objectif européen.
De façon obligatoire des carburants durables qui coûtent entre 3 et 10 fois plus cher. Donc dès aujourd'hui, Madame Ben Saïd, dès aujourd'hui, les compagnies aériennes savent que la facture de kérosène va exploser. Monsieur Ben Smith, le président d'Air France, s'est engagé, ce qui est d'ailleurs une rupture par rapport à l'histoire d'Air France. Monsieur Ben Smith s'est engagé à incorporer des carburants graves. Donc dès à présent.
À hauteur de 5%, c'est ça l'objectif, n'est-ce pas ?
Mais attendez, à hauteur de ce que pourront produire les pétroliers.
Et
aujourd'hui,
effet,
il serait impossible d'intégrer plus de 5% de carburant durable parce que les pétroliers n'ont pas encore les usines. Ce que je peux dire simplement, c'est que, et je l'annonce aux consommateurs, les prix de l'avion vont nécessairement augmenter parce que le kérosène va exploser en termes de prix à raison de l'obligation d'incorporer des carburants qui n'émettent pas de CO2. Donc, plutôt que de taxer le kérosène, ce qui représente quelque chose d'absolument stérile, il vaut beaucoup mieux encourager à produire très vite des carburants durables qui vont de toutes les façons renchérir le prix de l'avion. Donc, travaillons nos dossiers. Regardons techniquement ce qui se passe et à ce moment-là, on fera œuvre utile.
Là, vous attirez notre regard sur le prix du billet, on vous entend. Mais est-ce que le trafic, la question de fond, c'est est-ce que le transport aérien est en train de changer radicalement pour faire baisser ses émissions de CO2 ? Là, vous me dites, il va y avoir des agrocarburants, mais c'est pas ça qui fait baisser massivement les émissions.
Mais bien sûr que si. Un agrocarburant, un e-fuel, il n'émet aucun CO2.
Mais pas au niveau où ça va être utilisé.
Mais attendez, l'objectif, c'est d'avoir 100% de biocarburant. Qu'est-ce que sera le transport aérien dans 20 ans, Madame Ben Saïd ? Ça sera trois choses. Ça sera l'avion électrique, pour les écoles ou les très courts courriers. Dès à présent, moi, je vais faire la publicité de l'entreprise slovène Pipistrel, qui a en projet un avion de 20 personnes à propulsion 100% électrique. Ça, c'est pour les courts courriers. Pour les moyens courriers, le président d'Airbus, Guillaume Foury, s'est engagé à travailler sur l'industrialisation d'un avion à propulsion à hydrogène. Il nous dira en 2025 dans quelles conditions. C'est une révolution. Mais le monde de l'aviation nous a habitués à être un monde révolutionnaire. C'est un monde qui réenchante le progrès, le monde de l'aviation. Et ça, je le revendique. Et enfin, pour les avions très longs courriers, ils seront propulsés avec des avions avec des carburants durables. Dès aujourd'hui, la marque Rolls-Royce produit des moteurs qui peuvent ingérer 100% de carburant durable. Donc la seule limite aujourd'hui, elle est double. D'une part, les pétroliers n'ont pas encore transformé leurs usines pour donner ces produits. Et d'autre part, le prix augmenterait dans des telles conditions que ce serait difficile pour le consommateur.
Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, qui nous annonce que de toute façon, les prix des billets
vont augmenter pour les avions. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas
l'écho. Merci Alexandra Ben Saïd.
Question de vie au boulot, c'est Corinne, une aide-soignante de nuit de l'hôpital de Manosque qui vous a écrit, Sandrine Foulon. Son service passera aux 12 heures à partir de janvier par manque de personnel. Le personnel de jour est d'accord. Corinne, elle ne pense pas pouvoir supporter ce rythme. Comment peut-elle s'opposer à cette décision? C'est ce qu'elle vous demande.
Alors non Corinne, il n'est pas possible de refuser cette nouvelle organisation. Normalement, en cas de travail continu, c'est 9 heures de travail maximum pour les équipes de jour et 10 heures pour la nuit. Mais pour assurer la continuité du service, la direction de l'hôpital peut imposer une durée plus longue, jusqu'à 12 heures. Quand le personnel manque, ça lui permet d'économiser une aide-soignante le jour et une autre la nuit. Mais la demande de changement d'horaire peut émaner des équipes elles-mêmes pour concentrer le travail sur 3 jours et moins venir à l'hôpital. Ce n'est pas toujours un bon calcul en cette période de grande tension. Les hôpitaux sollicitent beaucoup leur personnel, modifient leurs congés, même si en théorie la durée de travail hebdomadaire ne peut pas excéder 48 heures. La seule solution pour échapper à ce nouveau planning, Corinne, ce serait de changer de service, ce qui n'est pas forcément évident.
D'un point de vue de la santé, Sandrine Foulon, est-il souhaitable que des personnels soignants, déjà fatigués, travaillent 12 heures d'affilée?
Non. Thierry Amouroux, le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, rappelle qu'à partir de 10 heures de travail, davantage d'erreurs de soins sont commises. Ça concerne les infirmières qui doivent rester concentrées pendant 12 heures, mais le travail est tout aussi éreintant pour les aides-soignants. On parle beaucoup des vagues de Covid, mais pendant les creux, la charge de travail a augmenté pour s'occuper de tous les patients déprogrammés à cause de la crise sanitaire. Et c'est leur santé à elles qui finit par trinquer. 10% des personnels soignants sont en arrêt maladie. L'hôpital fait face à des départs massifs d'infirmières et d'aides-soignantes, épuisées et dégoûtées, confirme Thierry Amouroux. Et ce ne sont pas les 183 euros de revalorisation par mois du Ségur de la Santé qui les retiennent. Ça reste 10% en dessous du salaire européen. 180 000 infirmières de moins de 62 ans ont cessé d'exercer. Contrairement aux médecins qu'il faut former, elles sont disponibles. Certaines pourraient revenir, sous réserve de travailler dans des conditions acceptables, avec des horaires tenables, sans devoir s'occuper de trop de patients à la fois, chrono en main. Et ce qui est vrai pour les infirmières, Corinne, l'est évidemment pour les aides-soignantes.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, toute l'équipe du Magéco vous souhaite un excellent week-end. Merci à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, à Céline Hilla, à la réalisation et à la technique. Merci à Benjamin Troncin, Juliette Delperroux et Maxime Goudard.